diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France, à écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, et sur notre appli Android. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue dans l'économie en direct, l'émission qui donne la parole aux acteurs du terrain, ceux qui façonnent au quotidien l'économie locale et innovent pour demain. Aujourd'hui, mardi 24 février 2026, nous avons le plaisir de poursuivre une belle dynamique engagée avec le réseau Parisis Business. Depuis notre dernière émission ensemble, les échanges ont suscité beaucoup d'intérêt, preuve que les entrepreneurs de notre territoire ont besoin de se rencontrer, de partager, de créer des synergies concrètes. À IDFM Radio, nous croyons profondément à la force des réseaux locaux et nous savons que derrière chaque entreprise, il y a une femme, un homme, une vision et souvent des défis à relever. Et pour illustrer cette belle dynamique, j'ai le plaisir de recevoir ce matin de nouveau le président du Parisis Business ainsi que deux membres du club qui incarnent chacun un secteur clé de notre économie, l'immobilier et la transition énergétique. Nous allons parler engagement, territoire, coopération, mais aussi réalité du terrain. Et donc j'accueille Johan Reboux, agent général d'assurance, président du Parisis Business. Bonjour Johan.
Bonjour Jacqueline.
Laurent Loison, président de Bailleurs Tranquilles. Bonjour Laurent.
Bonjour Jacqueline.
Et Sébastien Héron, responsable administratif et financier de Technithermie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue à tous les trois en direct dans l'économie en direct sur IDFM Radio.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Et donc, je m'adresse bien sûr à vous, Johan Reboux, donc président du Parisis Business. Alors, lors de notre dernière émission, nous avons parlé de la naissance du réseau, hein, Parisis Business. Vous ne m'en voudrez pas si je vous fais répéter le pourquoi et le comment de cette création ?
Non, mais avec plaisir. Avec plaisir. En fait, le Parisis Business a été créé en 2015. C'était issu d'un autre groupe de chefs d'entreprise qui se réunissait déjà pour faire des échanges de recommandations. Et sauf que c'était dans le cadre d'un réseau qui était un peu à l'américaine, qui ne nous convenait pas tout à fait. Et on a préféré recréer un réseau avec des règles qui nous convenaient plus et qui étaient surtout plus en conformité avec notre réalité, c'est-à-dire que la partie géographique, la partie, on est vraiment sur le terrain, local, acteurs locaux, nous n'avons pas besoin d'avoir un réseau international qui pouvait nous donner des contacts en Australie ou aux États-Unis. Donc, nous, on est des acteurs locaux avec une emprise locale. On a recréé donc nos règles là-dessus et surtout, il y a le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on a fait la même chose à moins cher.
Oui, parce que je crois que le fameux réseau dont vous parlez a une cotisation annuelle assez élevée.
Hein. Assez élevée, oui. Ça c'est leur c'est leur choix. Nous on fait la même chose pour le tiers.
On est bien d'accord. Donc vous décidez de créer ce réseau et très vite vous rencontrez du succès.
Ah oui, ça correspond à quelque chose, hein, de toute façon. Et c'est pas que au niveau du business, c'est pas que nos réussites en matière d'échange de recommandations qui ont fonctionné, c'est aussi le lien que l'on crée entre chefs d'entreprise, quoi. On est un peu comme quand on est chef d'entreprise, on est seul, hein, et on est seul au milieu d'une nuit froide d'hiver. Quand on a l'occasion de pouvoir se réchauffer avec d'autres et se regrouper pour pouvoir se réchauffer, les gens apprécient.
Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, le Parisis Business est fort de combien d'adhérents ?
Là, on est à 26.
26 adhérents. Je crois que vous m'aviez dit que vous ne souhaitiez pas
pas beaucoup plus, c'est-à-dire si on peut monter à une trentaine.
Oui, c'est ça. Hein,
mais pas plus, parce qu'en fait, dans le principe même de du Parisie, on se réunit tous les mardis matins. Mm-hmm. À partir de 7h30, et en fait, de 8h à 9h, on a une réunion où chacun se présente. Et se présente pendant une minute. Donc, plus de 30 participants, oui. ça tiendra pas dans l'heure. Toutefois, on a un deuxième cercle, on a élargi le Paris E-Business à ce qu'on appelle le club du Paris E-Business. Qui là permet aux gens de se réunir, mais c'est le soir, c'est un after work. Mm-hmm. Hein, on fait ça une fois par trimestre et les conditions d'acceptation sont plus larges.
Bien sûr, bah on en parlera tout à l'heure pense que vous avez peut-être une date à nous communiquer. Alors, qu'est-ce qui différencie votre réseau d'un simple club d'affaires ou d'un... Alors, le réseau national, vous venez de nous l'expliquer hein, par rapport à l'ancien, mais voilà, qu'est-ce qui vous différencie d'un simple club d'affaires ?
Oh, on a déjà une philosophie à laquelle je tiens beaucoup. C'est basé sur le libéralisme, c'est-à-dire que les règles pour que ça fonctionne, elles existent, mais elles sont minimes, et chacun y apporte sa pierre à l'édifice. Donc, ce qui permet que chacun se trouve face à un réseau qui lui convient. Et se retrouve avec les autres. Et ensuite, on a un dynamisme, on essaie que les réunions ne soient jamais les mêmes, on fait justement le club Paris E-Business aussi pour brasser encore plus de contacts. Et une fois par an, on fait même un séminaire parce qu'on s'entend très bien, donc avec les conjoints. Les membres sont ravis de tout ça.
Est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui d'ancrer un réseau justement dans une logique territoriale forte ?
Faut voir à qui on s'adresse. L'économie locale, c'est quelque chose qui parle à nos clients. On travaille en B2B ou avec des particuliers. Moi, je préfère donner l'adresse d'un artisan. Que les gens peuvent aller voir et aller voir une fois, mais surtout continuer à voir et c'est toujours les mêmes interlocuteurs et de même quand on est en B2B, hein, on travaille pas avec des grosses entreprises du CAC 40, même si c'est des PME, elles aiment bien avoir un interlocuteur et c'est des gens que nous on connaît, donc forcément ça peut être que des entreprises locales.
Et alors, comment sélectionnez-vous donc les membres ? Si les auditrices et auditeurs nous écoutent et qu'ils aient envie de rejoindre.
On rentre dans l'organisation, dans l'organisation. Donc, il y a un bureau avec un trésorier, un secrétaire et un président. Et on a voulu ouvrir la gouvernance. Et donc, on a créé un comité qu'on appelle comité des membres, qui reçoit le postulant, l'adhérent, hein. Au préalable, le postulant est déjà venu trois fois gratuitement, donc on lui demande pour voir si ça lui convient, s'il a des questions, voir comment ça fonctionne et voir aussi s'il rentre pas en concurrence avec des professions qui seraient représentées dans le groupe,
parce que voilà, c'est un point règle,
voilà. On n'est pas là pour faire de l'argent, pas du tout. On est là pour que tout le monde s'y retrouve et le principe de non-concurrence dans les réunions du mardi matin, c'est essentiel. Et donc, une fois que le postulant a demandé à venir et nous présente sa grande candidature, là, c'est le comité des membres qui le reçoit et qui l'interviewe et qui nous donne un retour.
Bon, tout à l'heure, on posera la question à Sébastien et Laurent pour qu'ils nous racontent comment ça s'est passé quand ils sont venus
Vous avez Sébastien qui est au comité des membres.
Moi, je fais partie du comité des membres.
Vous lui donnerez l'autre côté alors
l'autre côté.
Du comité.
Et Laurent, lui, vient d'arriver. Donc,
oui, c'est un petit nouveau.
On va avoir une expérience. Un témoignage tout récent. Et donc. Les qualités, c'est la compétence, l'état d'esprit, l'engagement qui importe pour vous.
Ce qu'on aime bien aussi, c'est que les gens, un des critères, alors ça c'est vraiment très subjectif, hein, mais un des critères, c'est ce qui va correspondre à l'ADN du groupe aussi.
Oui. Bien sûr, ça c'est
oui. C'est vraiment excessivement important parce qu'on voilà cohérent et en cohésion que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas des idées farfelues, des façons de voir, des sachant que après c'est très libéral, donc la base tout le monde est accepté. Bon, mais il y a des fois il peut y avoir des
est-ce que c'est arrivé que vous ayez un membre qui ne soit pas vraiment dans le dans l'ADN du groupe? Et
oui, forcément, c'est lié parce qu'au début, ça peut très bien se passer, et au fur et à mesure, à l'usage, les gens ont le droit de penser différemment, bien sûr, de voir les choses différemment, et donc, les gens partent d'eux-mêmes hein, quand s'ils voient que ça leur correspond pas. Mais voilà, le sujet le plus embêtant, c'est quand il y a des conflits liés au business en lui-même. Mais ça, étonnamment, très très peu, je sais pas si on en a eu deux en 10 ans, c'est même pas sûr.
Oui,
quoi.
Donc c'est...
Alors que c'était plutôt ça moi, que je pouvais craindre.
Au départ. Hein,
et en fait, non, les gens s'entendent bien, mais c'est toujours quand on a affaire à des gens intelligents.
Oui,
et qui veulent bien faire,
que, on trouve des solutions. La gouvernance, elle est importante aussi. Hein. Je crois qu'il faut... Le président est là pour essayer de faire que tout le monde
il trouve
s'y
son
retrouve,
compte.
En fait. Oui. Hein. Ouais, c'est bien. Johan, je propose qu'on marque une pause et on va écouter Alain Bachung et Osez Joséphine et on se retrouve juste après.
Berlin, en devine, des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénérat, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez le sourire, soyez ma muse. Que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Nous voilà de retour dans l'économie en direct et je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette émission en compagnie de Johan Reboux, agent général d'assurance, président du Parisis Business, Laurent Loison, président de Bailleurs Tranquilles et Sébastien Héron, responsable administratif et financier de Technithermie. Johan, hors antenne, on a évoqué les chiffres d'affaires qui sont annoncés au cours de vos réunions. Donc peut-être un mot sur ce domaine particulier.
Oui, dans l'émission du Paris Business, si je peux dire, il y a quelque chose qui nous semble important aussi, c'est une valeur un peu éducative. C'est-à-dire que on interpelle chef d'entreprise tous les 6 mois, parce que ça se passe tous les 6 mois au moment du changement d'animation, et on lui demande les objectifs qu'il a prévu de faire pour les 6 mois à venir. Alors, c'est-à-dire de recevoir. Mais aussi de donner le chiffre d'affaires qu'il va pouvoir donner aux autres membres et de recevoir, sachant que s'il veut recevoir, c'est lié à ce qu'il va donner.
Bien sûr.
Donc pour le mobiliser aussi et puis pour qu'il puisse aussi tout bêtement réfléchir à son activité et quelles sont les voies, les leviers sur lesquels il peut appuyer pour qu'on lui apporte des clients, qu'on lui apporte du business, c'est ce qu'il peut nous raconter pendant les 6 mois pour nous donner des pistes, pour le recommander. Par exemple, au semestre dernier, on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires.
Ouais, ce qui est bien.
Ce qui est très, en revanche, c'était en dessous de ce qu'on avait prévu au niveau des objectifs.
D'accord.
Donc, ce semestre qui a recommencé à la mi-janvier, on a refait tout un travail sur les objectifs, comment les donner, on les a alertés, on leur a montré les failles, les problèmes, les dissensions, parce qu'il y en a qui prévoyaient pas assez, d'autres qui prévoyaient beaucoup trop. L'intérêt, c'est que quand vous atteignez vos objectifs, collectivement, tout le monde est content.
Bien sûr.
Alors que ça crée une déception, ça se trouve leur objectif aurait pu être de 300 000 euros et tout le monde aurait été content. Hein. Mais
ça a cette vertu. Combien?
Oh, je ne sais plus. On était à 500 000, je crois, comme ça.
Optimiste.
Alors après, il y a aussi un bon reflet de l'économie.
La conjoncture actuelle, bien sûr. Ouais.
Notamment nous, si le bâtiment se porte pas bien, on le revoit tout de suite dans les chiffres.
Ça se répercute.
Donc, mais c'est aussi, je vous dis, cette vertu de travailler ses objectifs, ce qu'un chef d'entreprise n'a pas forcément toujours le temps de faire, parce qu'il est pris dans l'administratif, dans le management, dans la compta. Et là, ça permet de sortir aussi, nez du guidon et de voir où il va. Alors, juste sur la partie Parisis Business. Mais ça a, à mon avis, une valeur universelle
pour soi, personnellement,
pour son entreprise,
du coup, bien sûr. Oui, c'est en fait vous recréez quelque part un service commercial avec toutes les obligations
de coaching aussi, on pourrait dire. On pourrait dire aussi un peu de coaching.
Oui. Quelle est la typologie alors donc là aujourd'hui on va parler comment immobilier et puis bâtiment, mais quelle est la typologie des entreprises représentées globalement?
C'est des PME pour beaucoup.
Les plus gros sont.
Sébastien.
On a été jusqu'à des entreprises qui avaient 20 salariés.
D'accord.
Mais on reste entre 5 et 10 salariés sur l'ensemble du groupe.
C'est ça, donc des entreprises qui n'ont pas forcément précisément de service commercial et qui viennent trouver cet avantage dans un club.
Tout à fait, mais il ne faut pas rêver, ça fait entre 5 et 10% du chiffre d'affaires d'une société. Hein, on ne va pas vendre plus, on ne va pas promettre plus aux futurs adhérents.
Il ne faut pas imaginer que parce qu'on connaît ces gens qu'on va faire tout son chiffre d'affaires, mais c'est un plus quand même.
Ah, complètement.
Absolument.
C'est 10% que vous n'auriez pas de toute façon.
Qu'on n'aurait pas.
C'est des gens qui ne passeraient pas de votre porte.
Il y a l'aspect psychologique, si je peux
Laurent,
me permettre aussi,
oui.
Sur le fait que on se sent pas seul en tant que chef d'entreprise. On est confronté avec d'autres expériences sur des métiers différents, mais qui finalement ont les mêmes problématiques qu'on a tous.
Oui.
Donc c'est rassurant, ça nous permet de sortir de notre solitude de chef d'entreprise.
Oui, c'est... Je comprends ce que vous dites, parce que pour avoir en son temps fréquenté aussi ce genre de club, j'avais été surprise de voir que les chefs d'entreprise finalement ont tous les mêmes problématiques, et que ça fait du bien de pouvoir les évoquer, de se dire bah, finalement je suis pas seule à gérer ça.
C'est exactement ça.
Oui. Alors vous, Johan Rebou, vous êtes expert en assurance. Aujourd'hui, quels sont les risques majeurs auxquels les TPE-PME doivent faire face en 2026 ?
Alors, vous avez bien évidemment tout ce qui est responsabilité civile, ce qui n'est pas toujours très bien compris par les clients. Alors, dans le bâtiment, ils connaissent bien généralement la décennale. Ça, ils sont au courant et ils connaissent très bien. En revanche, pour toutes les professions qui viennent de se créer, les auto-entrepreneurs, les gens comme ça, ils ne voient pas toujours l'intérêt de la responsabilité civile, la communication aussi, bien sûr. Souvent, si leurs clients leur demandent pas une attestation de responsabilité civile, ils voient pas. Le problème de la responsabilité civile, c'est que en cas de faute supposée, et j'appuie bien sur le mot supposée, le chef d'entreprise est mis en cause. Alors, il est mis en cause au titre de son activité, mais en plus, des fois, ça, dans certains cas, ça peut aller plus loin. C'est même mis en cause pour faute de gestion. Alors là, c'est sur ses biens propres.
Oui.
Donc, c'est l'ARC, mandataire social. Toutes ces choses-là, c'est très important, et c'est pour ça qu'il faut avoir un intermédiaire quand on est chef d'entreprise, pour pouvoir lui parler de son métier, des spécificités de son métier, parce que tout le monde n'a pas le même métier. On peut être bailleur, gestion de bailleur, plombier, hein, mais derrière se cachent plein de choses, plein de nuances, hein, et d'avoir donc un interlocuteur qui va pouvoir le guider dans le monde de l'assurance.
Oui.
C'est pas anodin,
pas donné à
parce
tout
que
le monde.
Oui, c'est puis faut vraiment le faire, hein, parce que c'est un monde où c'est une logique à part.
Vous voulez dire que toutes les entreprises ne contractent pas une responsabilité civile ?
Ah bah il y a tout un, je vous dis,
je croyais que c'était obligatoire.
Ah non, c'est légalement pas du tout obligatoire. D'accord. Vous prenez vos risques, à part la décennale dans le bâtiment, pour les gens qui sont dans le bâtiment, et quelques professions réglementées. Les autres sont pas du tout obligés de prendre une RC. Alors après, quand ils regardent leur compte d'exploitation, on peut le comprendre aussi, hein, quand on voit tout ce qu'il faut retirer et tout ce qu'il y a à payer, que ça soit, ça fasse partie des points sur lesquels on fait des impasses, ça s'entend. Le problème, c'est que vous êtes jamais à la merci d'un client qui vous dit, mais moi j'estime que vous avez fait une faute, je vous attaque, et là, si vous n'avez pas de RC, vous êtes tout seul.
Oui, ça coûte beaucoup plus cher qu'une simple assurance.
C'est ça, si vous avez une RC, c'est une compagnie d'assurance qui va vous défendre. Pourquoi ? Parce qu'en vous défendant vous, elle se défend elle.
Bien sûr,
doit payer.
Bien sûr.
Hein, donc les enjeux et les risques sont pas du tout les mêmes. Et il y a aussi ce qu'on appelle les RC des dirigeants ou les RC mandataires sociales, hein, qui permettent aussi de couvrir le risque de la faute de gestion, c'est-à-dire que si vous êtes attaqué et qu'on considère que en tant que mandataire social vous avez fait une faute de gestion, vous êtes redevable sur vos biens propres.
Oui,
alors
oui,
ça c'est la loi, et les compagnies proposent des contrats en complément de la RC pour couvrir ces problèmes.
Ce genre de problème, oui. Merci Johan Rebou pour cette précision. Alors, quel message voudriez-vous adresser à nos auditrices auditeurs qui hésitent à franchir le pas de rejoindre le Parésis Business ?
Ce que j'ai souvent dit, c'est que le Parésis Business, déjà, c'est le matin.
Oui.
Hein, donc, ça se termine à 9h.
Oui, c'est ça. Ça n'empiète pas trop sur la journée.
Voilà. Donc, à 9h01, vous sortez de chez nous.
À part le fait qu'il faut se lever tôt.
Voilà. Mais ça, c'est l'enjeu. Après, on peut pas venir chez vous sortir du lit, hein.
Oui, oui.
Mais à 9h01, vous sortez, vous avez déjà fait quelque chose pour votre entreprise. Et, quand vous venez dans ce genre de réseau, c'est pas pour parler de votre week-end, hein. C'est vraiment les gens qui viennent à 7h30, 8h. c'est parce qu'ils veulent vraiment faire du business. Donc il y a rien à perdre. Au contraire, il y a tout à gagner. Même si vous adhérez pas derrière, venez
présentez-vous.
Exactement, puis présentez-vous, ça a jamais été mauvais pour qui que ce soit.
Bien sûr.
Donc il y a des systèmes du matin, mais il y a d'autres qui sont le soir. Il y a voilà, il y en a d'autres qui proposent le midi. Faites-le. Vous verrez, vous en retirez toujours quelque chose de
bon. Bien sûr. Alors donc, comment adhérer concrètement et où est-ce que vous vous rencontrez?
Alors nous, on se rencontre au restaurant L'Entre-deux, au Plessis Bouchard, donc tous les mardis matins. Et pour pouvoir venir, vous retrouverez le fascicule d'invitation sur le site du Paris Business. Et vous pouvez nous solliciter donc, et vous serez accueillis à bras ouverts.
Et alors une dernière question, Johan, on en a parlé, donc le fameux club Parisis Business. Donc vous avez une réunion tous les trimestres, c'est ça? Enfin voilà. Un after work. Voilà. Là, il y en a un qui arrive ou qui est passé?
Non, alors il y en a un qui arrive, qu'on est en train de préparer, qui est le 12 mars.
12 mars, très bien.
Qui sera donc à ce restaurant, L'Entre-deux. Des fois, on alterne les sites en fonction des rencontres qu'on fait, des gens qui peuvent bien nous sûr. Accueillir. Donc là, ça sera à L'Entre-deux, qui est un restaurant qui est un ESAT, en fait. Donc ils sont ouverts que le midi.
Oui, qui est géré par Régis Franchetot, hein, j'avais reçu, que je connais bien, Régis Franchetot.
Et donc, le soir, il nous loue les locaux volontiers, sans que ça pose de problème. Il y a beaucoup de place, on est très content de pouvoir se réunir là-haut, et on est en train de voir que le buffet soit fait par un chef à domicile. Et on est en train de travailler aux conférenciers également.
D'accord.
Donc voilà, on essaie de faire une soirée, un after work, un peu différent, mais le but, ça reste quand même de faire des rencontres,
hein,
et d'entretenir le relationnel, parce que le club du Parisis, à la base, c'est ça. C'est des gens qui étaient dans le Parisis avant, qui peuvent pas continuer pour X raisons, mais qui
veulent garder un lien.
Voilà, qui sont très contents des gens qu'ils ont pu y rencontrer, et puis de ceux qui peuvent pas adhérer parce que il y a déjà leur profession qui est représentée, ou alors que le matin ça ne les arrange pas, des choses comme ça. Et ben, ils peuvent adhérer au club. Et donc tous
ils viennent
les 3 mois.
Au moins une fois par trimestre, ils vous rencontrent.
Exactement.
Ouais. Et donc le 12 mars, c'est à quelle heure?
Oh, ça sera à partir de 19h30.
Est-ce que si des auditrices, auditeurs nous écoutent et veulent participer, ils se manifestent ou il faut qu'ils soient invités?
Pareillement par le... Ah bah c'est mieux qu'ils soient invités.
Oui.
On sache le nombre de personnes et on limite quand même un peu le nombre.
Mais donc
nombre,
ils passent par le site
oui.
Paris Business. Oui.
Je demande tout ça avec leur bouteille.
Et en général, vous attendez combien de personnes pour ces after-work?
On serait sur une cinquantaine.
Cinquantaine, très bien.
On établit sur une cinquantaine.
Je pense qu'on a fait le tour, Johan. Merci beaucoup pour votre engagement au service du territoire et puis cette énergie que vous mettez à fédérer les entrepreneurs autour de valeurs fortes, coopération, proximité et ambition collective. Merci, Johan.
Merci, Jacqueline.
On vous laisse profiter de quelques instants de musique avec Françoise Hardy et Sous aucun prétexte. À tout de suite.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Silex, vite de pauvre, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin nous mettons à l'honneur le Parisis Business avec en ma compagnie Johan Rebou, agent général d'assurance, c'est AXA hein, je crois Johan, hein,
fait,
je l'avais pas précisé, président du Parisis Business, Laurent Loison, président de Bailleurs Tranquille et Sébastien Héron, responsable administratif et financier de Technithermi. Laurent Loison, donc j'ai compris que vous étiez tout neuf, tout récent au Parisis Business.
Absolument.
Alors, bien déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez peut-être nous raconter votre parcours et puis ce qui vous a amené à cette fonction de président de Bailleurs Tranquille.
Ah, je suis chef d'entreprise depuis une trentaine d'années maintenant.
Oui.
J'ai touché des métiers extrêmement divers et variés. Toujours dans le 95, même si j'ai eu une petite expérience aux États-Unis. Je suis revenu ici sur deux métiers. Le premier qui était le service à la personne.
D'accord.
Où nous avons exercé avec mon épouse pendant 13 ans. Et parallèlement, on a développé une activité donc de gestion locative, administration de biens, avec Bailleurs Tranquille. Et ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que nous exerçons cette activité.
D'accord. Et Bailleurs Tranquille, c'est vous qui l'avez créé ou c'est...
Tout à fait, oui.
Parce que je trouve que c'est presque un paradoxe, Bailleurs Tranquille.
Alors,
j'ai pas l'impression que les bailleurs soient si tranquilles que ça.
C'est l'objectif de et la mission de l'entreprise, c'est de rendre le bailleur tranquille.
Oui.
Qui effectivement, en tant que particulier, confronté à de multiples difficultés législatives, organisationnelles, de sélection des locataires. Donc, c'est effectivement un métier à part entière. Beaucoup de gens ne perçoivent pas nécessairement l'utilité d'avoir ou de payer des honoraires pour que ce soit fait et géré par des gens dont c'est le métier. Souvent, ils se dégoûtent de l'immobilier parce qu'ils ont une mauvaise expérience,
oui.
Alors que si dès le début, ils avaient été bien accompagnés, bah, ils seraient ravis d'avoir fait un bon investissement.
Bien sûr, bien sûr. Donc vous, votre spécialité, c'est la gestion locative et puis l'administration de biens.
Tout à fait.
Aujourd'hui, l'immobilier, c'est un secteur stratégique, mais alors très réglementé, ce que vous-même vous déplorez.
Alors, je le déplore oui et non. Et en fait, quand on parle d'immobilier, très souvent, les gens font une confusion parmi les trois métiers qui représentent ce métier. Pour vous donner une image, si on considère l'immobilier avec les métiers de bouche, on pourrait dire que la transaction, donc les ventes, ce serait une boucherie. La gestion locative, ça serait une charcuterie ou une poissonnerie. Le métier de syndic, ce serait une boulangerie. Mmh. On comprend très bien que ce sont des métiers de bouche qui se ressemblent parce qu'ils ont cette image. Mais à la sortie, ce sont des métiers qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas et qui ne font pas la même chose. C'est pour ça que les gens qui vont aller vers des sociétés, agences immobilières, pluridisciplinaires ne vont pas forcément apporter la bonne réponse à votre problématique. Chaque secteur a ses spécialistes, comme pour les avocats. En général, on va voir un avocat fiscaliste si on a un problème de taxes, et on va pas voir un avocat fiscaliste si on a un problème de divorce. C'est la même chose.
C'est ça. Alors qu'on parle souvent d'immobilier comme d'un seul univers, vous faites cette belle différence.
Elle existe, elle est existe. Là. Ce n'est pas le même droit, ce ne sont pas les mêmes lois, ce n'est pas la même jurisprudence. Donc, chaque métier doit connaître ses spécificités. Et aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il connaît tout sur un secteur. C'est juste impossible. Il y a trop de normes.
On est d'accord.
Il y a trop de réglementations et il y a trop de barrières administratives aussi. Et je pense que c'était la référence à la question que vous aviez évoquée tout de suite. Oui, aujourd'hui, on est submergé par une administration pléthorique, avec des gens qui font un super travail quand on les a en ligne, mais qui eux-mêmes sont submergés par l'euphorie administrative et nos normes. Mmh. Je vais vous donner juste un exemple qui est très récent. Au mois de décembre, je reçois un samedi, 11h. Vous n'avez pas téléchargé telle pièce sur votre numéro Orias, votre inscription va se terminer rapidement. Sans date, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Mercredi matin, 10h, je reçois un autre mail en me disant « mon inscription est révoquée ». Sachant que, donc on est bien d'accord, 4 jours,
et ça,
donc 2 jours ouvrés.
Ah oui, oui, oui.
Les délais de réponse de l'ORIAS lorsqu'on dépose un dossier, c'est 2 mois. Alors quand eux, ils ont une demande, c'est 2 jours ouvrés. Quand nous, on fait une demande, c'est 2 mois. Pour corriger le tir, parce que ce serait malhonnête si je n'allais pas au bout du propos, évidemment, j'ai tout de suite appelé l'ORIAS. J'ai eu des gens fabuleux qui m'ont tout de suite aidé. Le vendredi, on a pu résoudre le problème, mais on voit bien le problème administratif de base dès le début.
Oui, faut être réactif, quoi.
Ça aurait même pas dû arriver. Qu'on me donne un délai en me disant « vous devez déposer votre dossier avant tel jour, telle heure », pourquoi pas. On aurait très bien pu me dire « mercredi, ça me va ». Je l'aurais fait. Mais là, non. C'est en plus dans le flou et sanction directe. Ça n'a pas de sens.
C'est, on va dire, un problème franco-français. Sébastien, je vous ai vu réagir quand Laurent a imaginé ces trois pôles, boulanger, charcutier, boucher. Ça vous a parlé, j'ai l'impression.
Non, mais moi, c'est l'image. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, dans le club aussi, notamment dans le Parisi Business, on est des épicuriens. Et donc automatiquement, il y a des adresses qui disent où est-ce que tu vas acheter ta viande, où est-ce que tu... mais là, oui, ça m'a parlé. Moi, pour ce genre, l'appel du ventre me parle. Mais au moins, ça a l'avantage d'être très clair.
C'est cette
chose. Et puis j'en reviens sur le côté administratif de Laurent. Nous, on est dans le bâtiment. Il y a des qualifications. Et il est vrai que sur un dossier déposé au mois de juillet, j'ai appris que, puisque je n'avais rien au mois de janvier, qu'ils avaient oublié et que finalement ma qualification avait été suspendue. Et donc là, je l'ai récupéré parce qu'il y avait une session qui était le 17 février. Mais ouais, enfin voilà, on a très peu de temps pour répondre lorsqu'il y a une anomalie, et puis on est là pour y répondre. Mais un dossier déposé au mois de juillet qui arrive à échéance au mois de janvier, qui n'a pas été traité par l'administration, c'est gênant.
C'est
je pense que c'est le cas de toutes les entreprises qui peuvent avoir... Et au téléphone, par contre, c'est vrai qu'on est de mieux en mieux reçu, par contre.
Oui, c'est vrai. C'est peut-être l'intérêt d'un club comme le Parisi Business, où ce genre de... Vous l'évoquez dans vos réunions,
Je l'évoque, et en plus, on a une des membres, qui, elle, fait de l'administratif externe.
D'accord.
Et donc, lorsqu'il y a un pic comme ça de demandes de l'administration, moi, je suis passé par elle, notamment pour une de mes qualifications, et elle a effectué le travail week-end.
D'accord.
Ce qui m'aurait fallu, moi, en répondant à mes salariés, en répondant au téléphone, en répondant à mes clients, en répondant à tout ce qui fait même mes journées, je n'aurais pas pu mettre si peu de jours. Il m'aurait fallu peut-être la semaine. Donc, l'avantage du Parisi, c'est aussi de pouvoir avoir ce genre de personnes qui sont spécialisées. On parle bien de spécialisation et c'est énorme.
Oui, je comprends. Je me mets à votre place. Johan, là, vous avez un bel ambassadeur pour le Parisi Business. Merci, Sébastien. Alors, donc Laurent, vous, on parle un petit peu d'acharnement administratif. Quelles seraient les priorités pour simplifier le métier, selon vous ?
Je crois qu'à l'ère du big data ou des serveurs ultra performants, ne pas avoir besoin pour exercer son métier de faire un transfert dans 8 ou 9 administrations des mêmes pièces le bilan, l'attestation de RCP, l'attestation de garantie financière, l'attestation ORIAS, l'attestation de CGPA, l'attestation CNECF, etc., etc.
Autant d'acronymes qui sont un peu rebutants.
Voilà, mais qui sont des prérequis pour avoir le droit d'exercer. Je pense que ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. L'utilité de transférer les pièces n'est pas remise en cause. Maintenant, ce serait plus simple d'avoir une plateforme où chaque entreprise dépose les documents essentiels et que ce soit les entreprises qui viennent piocher dedans. Enfin, les administrations qui viennent piocher dedans. C'est vraiment pas compliqué à faire. On est tous enregistrés avec un numéro de sirène. Donc, c'est juste de la volonté politique, soit de pourrir les entreprises, soit de les accompagner correctement.
Oui, ça, on saura jamais. On saura jamais.
La question reste en suspens.
Vous confirmez, Johan Reboux, difficulté administrative.
Oui, et nous notamment, on a vu effectivement arriver l'ORIAS dans nos métiers, qui est quand même un organisme qui arrivait avec des exigences qu'il n'y avait pas avant. À qui on peut pas demander la raison de ces exigences. Des fois, ça se contredit avec d'autres choses, mais on nous dit c'est comme ça. Donc voilà, on est très loin quand même d'une facilitation administrative pour le développement économique. Et faut pas oublier que si on parle de développement économique, c'est pour que tout le monde en profite. Hein.
Bien sûr.
C'est pas pour nos petites préférences et des choses comme ça. C'est pour pouvoir employer du monde et pour qu'il y ait plus de richesse en France. À la base, c'est juste ça, quoi.
Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose.
Oui, Laurent. Oui,
pardonnez-moi. On ne se rend pas compte aujourd'hui que sur le travail d'une semaine d'un chef d'entreprise, on est à plus de 2 jours, voire 2 jours et demi, exclusivement consacrés à l'administratif. Mm-hmm. C'est autant de temps qui
ne passe pas à aller chercher des clients. Ouais, voilà. On est d'accord.
C'est ce qui fait mon poste aussi, donc je suis content.
Pardon, c'est pas ça. Il faut aussi.
On n'a rien dit alors.
Oups.
On parle beaucoup de crise du logement. Selon vous, quelles erreurs du passé sont en train de se reproduire?
Les erreurs du passé viennent de l'éducation nationale, j'en suis désolé. Aujourd'hui, on a oublié qu'il y avait un passé avec une culture et une histoire. Lorsqu'on n'apprend pas ce qui s'est passé à la sortie de la guerre et qu'on refait et qu'on reprend exactement les mêmes mesures qu'à la sortie de 48 pour ce qui a conduit à l'hiver 54 dont on connaît l'issue, on refait exactement les mêmes choses et après on se dit on comprend pas, ça marche pas. Bah, apprenez un peu votre histoire et refaites pas les mêmes erreurs du passé. C'est aussi simple que ça.
Et donc vous, si vous deviez mettre en place des normes, enfin des règles pour rendre le secteur à nouveau attractif, que feriez-vous pour les investisseurs?
Libérer, enlever toutes ces contraintes stupides qui font que, sous prétexte de protéger 3 ou 4% de gens, soit malveillants, soit indélicats, on enquiquine 97% de la population. Il y a des endroits où on peut contester le fait de pouvoir se libérer d'un locataire indélicat dans un délai très court.
Oui.
Mais à l'inverse, dans ces endroits-là, on limite les conditions d'accès au logement. En tout cas, elles sont levées, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, pour tous ceux qui sont des locataires soucieux d'avoir un bel endroit et de respecter le lieu dans lequel ils ont été acceptés, bien du coup, c'est 97% de gens qui n'auront pas besoin de montrer patte blanche, d'aller chercher, de montrer les cuillères de la grand-mère pour être sûr qu'elle puisse être garant, etc. Alors que le problème qui fait qu'on a besoin de ces informations-là, c'est parce qu'on ne pourra pas mettre dehors la personne indélicate.
Oui, c'est ce que vous appelez votre plan de parrainage attractif, c'est ça?
Non,
c'est autre chose.
Oui, oui. Là, on est dans le cadre de capter de nouveaux clients propriétaires pour venir chez nous.
Et donc, le plan de parrainage attractif, vous pouvez nous en dire plus?
Oui, parce qu'en fait, lorsqu'un propriétaire est content de notre travail, on n'hésite pas à le rémunérer avec une vraie valeur. On parle de 500 euros pour une maison qui est libre d'occupants lorsque on nous amène un propriétaire pour venir chez nous, ou 300 euros pour un appartement. Donc c'est une somme qui, je pense, est suffisamment intéressante pour que ça puisse fonctionner.
D'accord. D'accord. En fait, vous recréez un petit peu le Parisis business dans votre entreprise. Alors, rémunéré.
Johan, avec sa modestie, a oublié de dire quelque chose qui, moi, m'a marqué lorsque je suis venu. C'est la formidable énergie qu'il y a dans ce club. On arrive le matin, la tête un peu à l'envers, puisqu'il est tôt. Et on repart tous avec la pêche et la banane. Parce que je n'ai vu que des gens performants, hyper dynamiques, drôles. Et franchement, mais je le dis vraiment, c'est ce que j'ai vécu lors de mes trois premières visites. Premières visites, je me suis dit, mais c'est là que je veux être, parce que moi aussi j'ai envie de rire et partir avec la pêche le matin.
Parce que vous en avez fait plusieurs de clubs avant d'atterrir au Parisis Business.
J'ai tenté effectivement plusieurs entrées qui ne m'ont pas du tout séduite, mais là effectivement j'ai été complètement conquis.
Le coup de cœur.
Ah, le coup de cœur.
Johan.
Ah ben je peux pas dire mieux.
Laurent Loison, hein. Et alors aujourd'hui, donc vous y êtes depuis quand, Laurent, au Parisis Business?
Alors ça fait un petit moment que j'essaye de rentrer, mais il y avait quelqu'un
qui
était.
Vous voulez pas de vous?
Non, oui, exactement. C'est exactement ça. Non, pour le respect des règles,
il y avait de l'éthique,
une profession qui était déjà représentée parmi celles que je défends, et que donc les règles sont les règles, il faut les accepter. Mmh. Cette personne a cessé de vouloir faire partie parce qu'elle a sûrement d'autres envies. La place étant libre sur ce métier, j'ai vous sauté avez... à pieds joints sur l'opportunité.
Il y avait une liste d'attente.
Ah ben un peu, et puis c'est agréable de voir que les gens continuent, quand on les rappelle, on leur maintient la place est libérée, ils nous disent oui, tout de suite quoi.
Merci Yann. Donc, qu'est-ce que vous pensez que ce réseau va vous apporter concrètement en dehors de la performance et de l'humour, Laurent?
Démarrer une journée avec un sourire, c'est pas forcément évident, surtout en ce moment. Donc ça contribue déjà à son propre bien-être et on ne peut pas juste l'écarter comme ça. Non, l'intérêt, c'est qu'il y a des métiers tellement différents qui sont représentés, électricien, plombier, spécialiste de la climatisation, pour ne parler que du bâtiment, il y en a bien d'autres, hein, pardonnez-moi et pardon à ceux que je n'ai pas cités. Tous ces métiers ont des interconnexions.
Oui.
Savoir qu'on va pouvoir compter... Dont
vous pouvez avoir besoin dans votre activité.
Absolument. Ça ne veut pas dire que le devis qu'ils vont faire va correspondre à notre client final, mais au moins on a une réponse immédiate à apporter et permettre au client final de se dire « Ah, quand même, cette fonction-là correspond à tel prix, j'avais pas forcément imaginé ça comme ça. » Mais au moins on a la certitude d'avoir des gens qui sont performants derrière. Parce que c'est quand même ça l'objectif. C'est pas recommander quelqu'un qui va juste faire son travail et qui va le faire à l'envers. Non, on recommande quelqu'un qui a fait ses preuves puisqu'il est là dans un réseau depuis plusieurs années. Donc c'est qu'il a acquis des compétences confirmées et qui ont été vérifiées. Donc à partir de là, on sait, on connaît la qualité de la référence.
C'est ce que disait Johan, hein, le fait de connaître quelqu'un, on va plutôt s'adresser à cette personne qu'à une autre quand on a un vrai besoin.
Absolument.
Laurent Loison, donc président de Bailleur Tranquille, vous êtes à la recherche aujourd'hui de partenaires. Donc quel type de partenaires recherchez-vous?
On est toujours à la recherche de partenaires et d'entreprises performantes. Là, comme je suis le dernier impétrant, évidemment, je n'ai pas encore eu la chance de travailler avec chacun d'entre eux, mais je n'ai que cette volonté de tester, de pouvoir justement répondre avec toute cette variété de métiers que je n'avais pas forcément encore sur chaque secteur. Il y a des secteurs très compliqués à avoir. Là, le bâtiment est représenté dans tout son spectre, sur toute sa largeur. Donc à partir de là, c'est des collaborations à mettre en place, des façons de travailler et au final, des clients qui ont une chance supérieure d'être satisfaits.
Et alors, dernière question, comme on sait que l'immobilier, ces derniers temps, n'allait pas trop bien, qu'en est-il là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut... On parle de frémissement?
Non, en fait, le pouvoir d'achat est limité à un certain plafond, ce qui veut dire que certaines transactions vont pouvoir se faire relativement facilement en dessous de 150, 180 000 euros. Au-delà, tout est compliqué. Pour deux raisons. Il y a la raison financière et de l'impact des intérêts sur sur un budget, avec les taux bancaires. Ça, c'est la partie transaction. Sur la partie gestion locative qui me concerne, dès lors que votre investissement vous coûte plus cher, votre rentabilité est inférieure et les capitaux s'en vont. Ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, le risque majeur face auxquels la France doit répondre, c'est que des gens qui vendent aujourd'hui leur appartement, leur bien en location, font sortir l'argent de France et vont acheter au Portugal ou acheter en Italie. C'est autant d'argent qui sort de France.
Ah oui. Mm-hmm. Donc c'est pas bon pour l'économie française.
L'ampleur est telle que nous avons ouvert un bureau au Portugal.
Ah oui.
Et nous avons chaque jour, je dis bien chaque jour, des commandes de Français ou d'Anglais, puisqu'ils vivent la même problématique, de gens qui nous demandent comment j'investis, quelle est la structuration juridique qu'il faut et comment ça se passe.
Il y a toujours les mêmes avantages au Portugal en ce moment ?
Alors, il n'y a plus du tout les mêmes avantages qu'on évoquait auparavant. Aujourd'hui, les avantages, ils sont juste fiscaux et nationaux, puisque quand vous êtes sur un IS à 15%, et que nous
enfin, ça existe toujours, l'avantage fiscal.
Des 15%, oui. Ça vient d'être mis en place, puisque ça descendait depuis plusieurs années. Mm-hmm. Et comme par hasard, le Portugal vient de dire que son budget est positif. À bon entendeur, sans...
Merci Laurent Loison, donc président de Bailleur Tranquille. Merci pour votre franchise et puis votre éclairage précieux sur les réalités du secteur immobilier. On comprend que votre analyse nous aide peut-être à percevoir les enjeux du logement. Et puis bienvenue donc au Parisis Business.
Merci.
Voilà, on fait une nouvelle pause et je vous propose d'écouter Stéphane Escher, Combien de temps ?
L'ombre de mes cils, un seul regard. L'ombre de mes cils, comme un rempart. Le plaisir facile, les amours d'un soir. Mais de n'oubli subtil dans le nœud de foulard. Combien de temps, combien de temps. Si on reste face à face sans un mot, sans une gomme qui efface. Combien de temps, combien de temps. Et je bois, et je suis. De toi. L'ombre de mes cris, flèche invisible. L'ombre de mes cris comme une scie. Les mots inutiles, sourire illusoire à vos questions futiles. Je réponds au hasard. Combien de temps, combien de temps. Si on reste face à face sans un mot, sans une gomme qui efface. Combien de temps, combien de temps. Et je bois, et je suis sous le toit. Ces jours-là, j'ai de la paix. Sans un mot, sans une dame qui efface. Combien de temps, combien de temps. Et je bois, et je suis. Souviens, combien de temps. Si on reste face à face sans un mot, sans une dame qui efface. Combien de temps. Et je bois, et je suis. Souviens-toi.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Dernière ligne droite de l'économie en direct sur IDFM Radio, dans laquelle je reçois aujourd'hui Johan Reboux, agent général d'assurance de AXA, pardon, président du Parisis Business, Laurent Loison, président de Bailleur Tranquille, et Sébastien Héron, responsable administratif et financier de Technithermi. Alors Sébastien, je vous pose un petit peu la même question qu'à Laurent avant de parler de votre activité et puis du Parisis Business. Est-ce que vous pouvez nous partager les grandes étapes de votre parcours professionnel ?
Alors, deux, deux choses. Le bâtiment, parce que mon père était entrepreneur individuel, spécialisé dans la reprise en sous-œuvre et sur Paris. Et bon, je n'avais pas du tout les études d'ingénieur, je n'avais pas fait du tout ce type de voie. Mais néanmoins, l'entrepreneuriat m'a toujours intéressé et c'est par la comptabilité que finalement... Bon, avant, j'étais en expertise comptable, mais c'est là où j'ai pu avoir des clients qui travaillaient dans le bâtiment. Et notamment, à un moment donné, j'ai un ancien client que j'avais connu en 98 qui commençait à avoir 60 salariés, 4 sites, et qui a demandé à ce que je rentre en interne. Et donc, c'était la société Technithermie.
D'accord.
Et donc, c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans le bâtiment. En ayant quand même un certain goût, une appétence par rapport à ce que faisait mon père.
Puis une certaine, probablement, formation, en tout cas, sur un peu en autodidacte avec votre père, c'est ça ?
Oui, enfin, à l'époque, c'était plus, si vous voulez, sur... Donc, c'était de la maçonnerie, déjà, c'était pas du génie climatique. Et puis, la connaissance, ou tout au moins, se faisait de façon plus... pas brutale, c'est pas le mot... adéquate, mais
plus
direct. Voilà, on avait affaire à des responsables de chantier qui avaient 40 ans et qui, si vous voulez, en plus, lorsqu'on est le fils du patron,
pas toujours apprécié, c'est clair. Donc aujourd'hui, vous intervenez à la croisée de la gestion, du management et de la transition écologique. Donc ça doit être assez intéressant quand même.
Oui, c'est... La transition énergétique et climatique est quelque chose de vertueux. Enfin, c'est des opportunités pour les entreprises qui font du génie climatique. Et d'une part, c'est une nouvelle recherche, c'est des nouvelles formations, c'est aller chercher, on parle de tri des déchets aussi, on parle du traitement de l'eau qui en dehors du côté énergétique, qui est dans les années futures, qui avait une problématique dans tous les cas. Et donc amener une petite entreprise de chauffage sur ces transitions est quelque chose de très intéressant, vertueux dans tous les cas.
Oui.
Et, heureusement, on est aidé aussi. Enfin, pour notre part, on fait partie de la Fédération française du bâtiment. Et donc derrière, il y a des services qui nous sont proposés. Et on est suffisamment entouré. Bon, maintenant, ça reste cette transition assez coûteuse quand même pour les petites entreprises.
Oui, bien sûr.
Autant au niveau des formations, même si il existe des fonds, mais trop peu. Et on parlait tout à l'heure de problèmes administratifs avec une rigueur administrative qui empêche parfois de pouvoir effectuer cette transition. Et on va parler aussi du CPF, lequel on a des budgets là qui vont descendre peut-être, où il faudra autofinancer ces formations. Mais je vois sur les dernières formations que j'ai pu faire avec mes salariés, pour lesquels ils ont pris leur CPF, c'était très 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 difficile. Et certaines formations n'ont pas pu avoir lieu parce que justement... il y a un problème administratif à ce niveau-là.
Là, vous êtes à la Fédération française du bâtiment du Val-d'Oise ?
Tout à fait.
Oui.
Depuis, je crois que cette entreprise a toujours fait partie de la Fédération française du bâtiment. Moi qui la connais depuis 1998, parce que c'était mon client en tant que cabinet d'expertise comptable, mais je l'ai toujours connue affiliée à la FED.
Toujours affiliée. Alors, est-ce qu'on peut dire que la transition écologique aujourd'hui est plutôt une contrainte réglementaire ou une opportunité stratégique ? Ah,
c'est carrément une opportunité stratégique. Ce qu'on aimerait plutôt, c'est qu'il y ait une visibilité fiscale qui soit faite. Vous avez la prime Rénov' qui a été arrêtée, qui a repris pour partie.
Oui, qui a fait des allées et venues.
C'est vrai qu'il y a eu, mais c'est le cas de beaucoup d'activités, depuis plus de 10 ans, on a eu des subventions, on a eu des crédits d'impôt, donc il est à un moment donné, l'État à aider, et il est temps après que les acteurs puissent faire effectivement les choses. Mais par exemple, vous avez sur la chaudière à haute performance énergétique qui est passée de 5,5 au 31 décembre 2024 à 20% au 1er janvier. Autant vous dire que nous, on est en B2C, donc le particulier se prend 15 points.
Bien sûr,
et c'est difficile. On fait du SAV, on fait l'entretien. On a quand même beaucoup de clients qui demandent de payer leur contrat. C'est un contrat qui est, je vais être transparent, qui est à 130 euros, à en payer en trois fois. Donc on a bien des ménages qui ont des difficultés et donc la transition aussi pour eux n'est pas forcément facile. Et c'est à ce moment-là les entreprises qui vont conseiller, qui vont faire les choses et il faudrait que l'État nous laisse un peu ou tout au moins avec nos instances, avec par exemple notre Fédération française du bâtiment, qui a des propositions qui puissent un peu les entendre.
Oui,
voilà.
Oui, c'est le... J'ai pu recevoir plusieurs fois Sébastien Ramey et puis William Vinant
qui regrette que est président de la Fédération française du bâtiment.
Qui regrette que les instances ne fassent pas appel à eux quand il y a des décisions de cet ordre à prendre.
C'est exactement ça. Mm-hmm.
Alors vous travaillez justement, on a avec nous donc Laurent Loison, vous travaillez avec des acteurs immobiliers. Comment vous voyez la collaboration entre performance énergétique et gestion locative ?
Bien écoutez, vous avez même si la loi a changé, vous avez la performance énergétique qui, dès que vous devez louer, dès que vous devez acheter, vous êtes obligé de fournir un DPE. Maintenant, au niveau des bailleurs, je sais que les budgets sont de plus en plus difficiles à avoir, notamment sur l'isolation extérieure. Moi, je considère que, avant de vouloir changer sa chaudière, c'est de regarder l'isolation de sa maison. Ça sert à rien de chauffer moins cher les petits oiseaux. Donc, c'est pas mon métier d'isoler, mais c'est la première chose à faire. Maintenant, au niveau des bailleurs ou ceux qui font de la gestion locative, bon, ils sont suffisamment sérieux, enfin ceux qu'on rencontre, pour savoir ce qui convient d'être fait. Et après, choisir une entreprise de génie climatique. J'invite tout le monde à regarder les qualifications, à regarder, on parlait d'assurance, à regarder sur les documents si on est assuré, tout simplement responsabilité civile et décennale. Les entreprises qui sont qualifiées ou qui font partie d'un syndicat sont obligées tous les ans, en dehors d'audits qui sont réguliers, mais de fournir des papiers comme quoi vous êtes à jour de vos cotisations sociales, de votre assurance. Et là, on ne parle pas que de décennale, on parle de responsabilité civile et décennale notamment, puisqu'on en parlait.
On rejoint ce que disait
Donc, c'est d'aller chercher, et puis c'est ouvert à tout le monde. Il suffit d'aller faire sur impots.gouv ou sur toutes les qualifications et vous trouverez forcément les entreprises. Qui respecte ces chartes.
Et j'imagine que ça doit être peut-être des problématiques que vous abordez quand vous vous réunissez au Paris Business.
C'est des problématiques, oui, notamment, même si on parle plus de les entreprises de bâtiment, on parle pas trop de nos qualifications parce qu'elles sont vraiment affectées à notre. On parlait tout à l'heure entre la poissonnerie,
charcutier et la boulangerie.
C'est exactement la même chose dans le bâtiment, mais on parle plus de nos problématiques salariales.
Oui.
Mais néanmoins, oui, on a toujours sur ce côté de qualification de savoir ce qui nous permet de choisir justement entre membres les personnes qui sont qualifiées et on va les regarder justement cela. Donc c'est une priorité.
Alors, Sébastien, en préparant le dossier, j'ai vu que vous aviez mentionné la reconversion professionnelle. Est-ce que c'est un enjeu majeur dans votre secteur ?
C'est un enjeu très important. Pourquoi ? Même si on a quand même un certain engouement de la jeunesse à venir sur la formation dans le bâtiment, nous, ça doit être la première année depuis 20 ans que cette année, nous n'avons pas trouvé d'apprentis. Néanmoins, la moyenne d'âge de mon entreprise, c'est 48 ans.
C'est bien.
C'est bien. Mais je m'aperçois que certaines personnes n'iront pas jusqu'à la retraite. Ils me le disent, ils le disent pas forcément à la médecine du travail. Moi, je sais qu'en aparté, ils me disent « Ouais, ce matin, c'était dur pour me lever ». Ils font leur journée, ils la font très bien. Ils ont les matériaux pour éviter toute souffrance ou tout problème.
Tout ce qu'on appelle
mais ça n'empêche pas qu'ils s'aperçoivent qu'au fur et à mesure qu'ils avancent et par rapport il y a 5 ans où je les connaissais, eh bien ils ont un peu plus de mal le matin à se lever ou ils ont un peu plus de mal à faire certains travaux et voilà. Et je me dis mais ils ont 48, 50 ans. même si la loi a été abrogée pour l'instant, mais on est parti quand même sur 64, voire 65. Oui. Et je ne suis pas sûr que ce personnel puisse aller jusqu'au bout de leur métier. Et se pose le problème de, dans notre entreprise, nous, dans tous les cas, et j'imagine dans toutes les autres entreprises, le problème de la reconversion au sein de ces entreprises. On peut pas mettre tout le monde de chef de chantier. Et puis, de toute façon, moi qui fais du B2C, je n'ai pas cette capacité. Et on se retrouve avec ce problème de, alors qu'ils ont des connaissances. Et pour moi, c'est
un vrai problème.
C'est un vrai problème. Oui, et si en plus derrière.
C'est un problème moral quelque part.
Exactement. Ouais. Et si derrière, en plus, on parle du CPF qui va être réduit. Alors que c'est leur argent, ils vont pas pouvoir éventuellement aller sur une autre formation qui pourrait leur plaire. Mmh. Et pour moi, oui, c'est dans le monde du bâtiment comme dans les autres entreprises, c'est quelque chose à faire attention. La place des seniors au sein de nos entreprises.
Oui.
C'est plus facile peut-être pour les comptables, la comptabilité va évoluer, l'intelligence artificielle fera que nos métiers peut-être n'existeront plus. Mmh. Mais c'est quand même plus facile physiquement pour moi d'aller faire un autre métier. quelqu'un qui est usé, tout simplement. Et pour moi, oui, c'est un enjeu majeur, le travail des seniors au sein des entreprises.
Bon, bah écoutez, c'est bien que vous le disiez, parce que là aussi, si des auditrices, auditeurs nous écoutent, ils peuvent peut-être, qui sont en recherche d'emploi, ils peuvent peut-être postuler chez vous, le cas échéant.
Et, dans tous les cas, tout CV sera lu.
D'accord. Sébastien Héron, donc vous nous avez dit que vous faisiez partie du comité, donc du Parisis Business. Ça veut dire que vous avez rejoint.
J'ai cette chance de.
Vous avez rejoint ce club il y a déjà quelque temps, alors.
Alors, la
Et
première
pourquoi,
fois que.
Pourquoi l'avoir rejoint?
Alors, la première fois que je suis rentré dans ce club, j'avais été invité par un membre, un confrère d'ailleurs.
Ouais.
Et donc, c'était à un moment donné où j'avais une nécessité de changer d'expert comptable. Et c'est au sein du Parisi Business, d'ailleurs c'est toujours mon expert comptable, il était membre du Parisi, c'est comme ça que j'ai connu le Parisi. Et à un moment donné, donc, mon confrère est parti de ce club pour des différentes raisons. Et c'est là où je suis rentré.
Comme Laurent, donc. Une place s'est libérée.
Ça a été
c'est
exactement
comme le club
ça.
Des 100, en fait, hein, c'est ça.
Et donc, pourquoi je suis rentré? Tout simplement, même si à l'époque, c'était encore plus tôt. Mais c'était toujours la pêche en sortant. Et puis, le fait aussi que dans ce club, on puisse participer. C'est-à-dire que, j'ai été président. Tous les 6 mois, il y a l'animation qui change.
Oui.
Et donc j'ai été président, vice-président, secrétaire. Enfin, il y avait trois personnes qui. Il y a toujours trois personnes qui animent les séances.
Même des fois, il amène le café, c'est pour dire.
Ah.
et donc c'est comme ça. Le fait de participer et j'ai eu l'avantage de connaître d'autres personnes. Et par exemple, on parlait de connivence ou d'interaction entre dans le bâtiment. Actuellement, donc moi, mes ouvriers ne montent pas sur les toits lorsqu'on change une chaudière. Et donc le tubage, il faut bien le faire descendre. Et donc je passe par un couvreur qui est sur place dans le Parisi Business. Actuellement, trouver un bon couvreur avant de le faire intervenir,
je confirme.
Ça peut être 6 mois, 1 an. Moi, j'ai l'avantage parce que si pas de chaudière, pas de chauffage, pas d'eau chaude, eh bien c'est cette entreprise, on peut la citer.
Allez-y.
L'entreprise Mignot, donc, j'ai cette faculté de pouvoir avoir un rendez-vous dans la semaine, même si moi c'est pas sur 2 jours ou sur 3 jours, c'est vraiment très ponctuel.
Oui,
mais sans avoir eu ce contact au Parisi, j'ai une partie
de. Vous seriez toujours en galère.
Exactement.
Il est situé où l'entreprise Mignot?
C'est au-dessus d'Henry, à Vigny.
Ah oui, d'accord.
Avant, ils étaient, je crois, sur Conflans.
Oui, donc pas très loin.
Et Vigny.
Pas très loin, donc.
Mais ils se déplacent sur l'ensemble du Val d'Oise.
Oui.
Et donc, pour revenir au comité des membres, et puis l'expérience l'ancienneté. Et le fait d'avoir pris
l'expérience.
Et le fait aussi peut-être parce qu'il y a un groupe aussi breton et je suis breton donc fait que
il y a des lobbies particuliers.
C'est l'expérience et le fait d'avoir beaucoup plus de beaucoup plus de postes au sein de ce groupe, qui fait que bon, on m'a proposé de passer au comité des membres. Regardez Laurent, bah, il est en pleine forme. On n'a pas été, mais Laurent,
ça
faut dire que ça a été
compliqué non. pour recruter
on
Laurent.
On l'avait croisé au club, et puis pour, enfin pour moi c'était une évidence, mais ça a été le cas pour les autres. Mais oui, on fait attention, et puis notamment on va aller chercher des qualifications et ainsi de suite pour que les gens puissent rentrer, mais que tout soit fait dans les bonnes règles.
Alors, je vous ai pas posé la question, Johan, mais je vous la pose là tous les deux. Johan et Sébastien, vous, est-ce que vous êtes à la recherche d'un membre en particulier, enfin, je veux dire, d'une profession en ce moment?
Alors moi, oui, je vais vous dire automatiquement, si quelqu'un fait de la gestion locative, je veux dire, c'est des grands, c'est des grands faiseurs pour moi. Je veux dire, c'est une certitude.
Merci.
Maintenant.
C'est ça l'humour.
Oui, mais j'espère, ça j'espère que c'est pas la fin du groupe que ça va pas faire entraîner.
Non, je veux dire, dans le bâtiment, il y a par exemple, je ne fais pas de climatisation. Les formations n'ont pas été faites, mais je veux dire, je peux pas apprendre non plus tous les métiers, mais la climatisation, si je dois parler du bâtiment, oui, bien sûr, quelqu'un pourrait rentrer. On pourrait avoir des staffeurs,
la vitrerie.
Vitrerie, d'accord.
J'ai un architecte.
Serrurier.
On va parler que du.
Qui est là, on parle que du bâtiment.
Mais les métiers de bouche, puisque nous sommes.
Ah, bah ça.
on a qui fait partie du club, donc pas du tout de.
Pas du tout.
Du Parisi, mais on a quand même un traiteur à domicile et un caviste. Donc,
d'accord, oui, donc c'est. Vous êtes bien. Tout va bien.
Ils ont un minimum de chiffre d'affaires qui rentre régulièrement.
Ah, ça, c'est sûr qu'on adhérent chez nous là-dessus, ces professions-là.
Et donc vous, Sébastien, si vous deviez donner un conseil à nos auditrices et auditeurs pour rejoindre le Parisis Business, alors, vous
déjà,
diriez
quoi? C'est de venir, tout simplement. Aller sur notre site internet, il y a la façon d'être invité, mais venez, simplement, venez nous découvrir. Et vous verrez, nous sommes charmants. Et puis, il y a du business qui se fait, parce qu'en dehors de ça,
c'est passer
du temps.
C'est la finalité.
Payer même... pour se faire des amis, genre c'est bon, y a rien de très excitant, mais en plus faire du business, oui, non, ça, il faut venir.
On n'a pas parlé du montant de l'adhésion pour le club, mais l'adhésion du Parisis Business, c'est combien?
450.
Voilà, 450 plus 40 euros par mois pour la location de salle, petit déjeuner, et 150 pour le club.
D'accord, très bien. Bien, je crois que... Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre, Sébastien?
Non, moi j'étais ravi. Enfin, je remercie encore le Parisis de mettre en avant les membres. Vous voyez, ça c'est...
Ah oui, moi, je trouve que c'est...
Je ne suis pas sûr que d'autres clubs, enfin d'autres réunions de chefs d'entreprise le fassent. Merci de votre accueil.
J'étais ravi.
C'était une première expérience pour moi, mais que j'apprécie.
Ben en tout cas, merci à vous pour votre vision stratégique et puis votre regard sur la transition énergétique et la gestion d'entreprise. Merci infiniment. Est-ce qu'on a le temps de faire une pause, Francky? Donc, je vous propose d'écouter Zazie, Rue de la Paix.
Je vends mon auto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur. Je sauve ma peau, vends mon âme au diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison. Château en Espagne. et je puise dans la caisse on a bien mérité de toucher une avance si c'est pour rendre la caisse à la communauté. Je passe à l'action quitte à monopoliser l'attention et rester quelques tours en prison.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
L'économie en direct est presque terminée, les 90 minutes sont presque écoulées. Donc aujourd'hui j'avais le plaisir d'accueillir Johan Reboux, agent général d'assurance AXA, président du Parisis Business, Laurent Loison, président de Bailleurs Tranquilles, et Sébastien Héron, responsable administratif et financier de Technithermie. Donc, comment Johan, vous connaissez la tradition, c'est-à-dire je redonne la parole pour un mot de conclusion. Je vais peut-être commencer avec vous, Laurent Loison.
Petit mot de conclusion. Déjà, merci de passer du temps avec les entrepreneurs. Et c'est dans notre société, l'entrepreneur est souvent considéré comme quelqu'un qui est néfaste à la société, alors que le tissu social ne tient et n'existe que par eux. C'est pas pour avoir les chevilles qui enflent. C'est
non, mais vous avez raison. Le tissu économique est fait de gens comme vous.
Entreprise ne veut pas dire multinationale. Y a souvent une confusion générale qui est faite. La plupart de nos entreprises ont 2, 3, 10 salariés. Ce sont celles qui font vraiment vivre la France et qu'à force de taper dessus, la France est en train de mourir. Donc, on fait ce qu'on veut après, on réfléchit pas. Mais... au moins, on sait où on va, c'est-à-dire que pas dans un avenir radieux. Et ce qui s'explique aussi, on vient d'évoquer le problème de la hausse de la TVA.
Oui.
Quand vous avez des familles qui ont des difficultés financières, chaque mois, comment voulez-vous participer à l'amélioration énergétique des bâtiments ou des maisons ou des appartements dès lors qu'on n'a déjà pas d'argent pour être capable de payer son entretien? Et on continue de racketter les particuliers avec cette TVA sur des sujets où il faudrait au contraire la réduire.
Oui, oui. Et c'est sûr que là, il y a tellement besoin d'argent qu'on ne sait plus
on la prend au mauvais endroit.
Il faut aller la chercher.
On la prend au mauvais endroit, donc à partir de là, ça ne peut pas fonctionner.
Oui. Merci Laurent Loison pour cette conclusion. Merci à vous. Sébastien Héron, un mot de conclusion.
Plusieurs. Merci de nous avoir reçus. J'invite l'ensemble des auditeurs et auditrices à aller sur le site du Paris e-Business. Vous aurez la possibilité de connaître vos trois auditeurs, enfin les speakers. De nous connaître,
oui. Voilà,
tout simplement. Et les autres. Et c'est un formidable groupe. Tout simplement.
Bon, bah écoutez, c'est vrai que ça donne envie d'y aller. Merci Sébastien, merci à vous. Johan Rebaud, le mot de la fin est pour vous.
Alors, deux points peut-être. Vous voyez, avec déjà une petite promotion pour le Paris e-Business. Donc oui, elle est sur le site, vous verrez toutes les professions qui sont représentées. Hein, donc si vous voulez adhérer, mais aussi si vous recherchez un plombier, un gestionnaire biens immobiliers, un assureur.
Hein,
exactement. Mmh. Hein, et ces gens-là pourront vous conseiller d'autres personnes. Donc, allez-y. Vous voyez aussi que pour ceux qui voudraient adhérer, on fait un maximum avec peu. Hein, on a parlé des montants d'adhésion et on cherche par tous les moyens de développer la visibilité de nos adhérents, de faire un maximum pour eux et ça de façon complètement bénévole. Donc venez, toutes les ressources et toutes les bonnes volontés seront acceptées et tout ça pour le bien de tous. Donc chacun apportera comme ça une pierre à l'édifice. Et l'autre point, merci Jacqueline, parce que on voit déjà qu'on parle d'économie avec des entrepreneurs et des gens qui sont investis dans la vie locale, et on touche à des vrais points, à des vrais sujets. Je pense qu'ils sont quand même nettement plus intéressants de notre vision que de celle d'une assemblée.
C'est clair. Mais moi,
des intérêts politiques.
C'est nous qui, enfin, en tout cas, c'est toute l'équipe d'IDFM Radio et moi qui vous remercions de votre confiance à nouveau, Johan, vous et puis tous les membres. Je voulais dire, par rapport justement au prix de l'adhésion, compte tenu du chiffre d'affaires que vous avez annoncé, enfin des chiffres d'affaires réalisés, ce sont des adhésions, le retour sur investissement, il se fait rapidement. Hein.
Ah ben ça peut se faire même beaucoup plus. Hein, pour certains, il y a des très très belles réussites.
Oui, mais
hein.
Je veux dire, voilà, l'adhésion, c'est epsilon, quoi, par rapport aux affaires.
On espère.
Qui vont être...
je pourrais pas le promettre, mais oui, on espère. c'est l'idée.
Je vais parler pour moi. Alors donc, sur le dernier semestre, je parle d'un semestre, alors que l'adhésion est annuel. Sur le dernier semestre, j'ai fait 25 000 euros de chiffre d'affaires.
D'accord.
Et donc une adhésion à 450 euros
sur l'année.
Donc le retour sur investissement, il est existant.
Exact. Merci pour cet exemple concret, Sébastien.
Si je peux me permettre juste d'ajouter une toute petite chose.
Laurent,
on a beaucoup parlé du site web. Le Paris e-Business est aussi sur LinkedIn et sur Facebook et il est très actif. Donc si en plus vous voulez liker et voir le compte-rendu de nos réunions, c'est un moyen déjà de nous découvrir avant même de venir nous voir.
C'est vrai que vous avez cet avantage, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs d'affaires. Hein. Donc quand je publie pour vous, je suis contente de pouvoir trouver le Paris e-Business sur LinkedIn. Merci infiniment. Moi, j'ai envie de dire que le Paris e-Business, c'est pas seulement un réseau, c'est une dynamique d'entraide, de développement, de rencontres. Et j'encourage tous les chefs d'entreprise, dirigeants indépendants ou porteurs de projets à venir découvrir ce club lors de leur rencontre hebdomadaire ou de participer à une soirée. Tout se retrouvera sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été mes invités. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.
Tout à fait.
Merci infiniment.
Bonne journée.
Merci.
Merci bien sûr à nos auditrices auditeurs pour leur fidélité. Merci Francky pour la technique. Et moi je vous retrouve vendredi avec une nouvelle émission et nous aborderons le problème de la sécurité en France avec un spécialiste. Je fais un peu de buzz, donc il s'agit de Frédéric Loz, secrétaire général du syndicat des commissaires en France. Merci à vous et à très vite.
êtes bien sur IDFM Radio.
IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière, tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val-d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val-d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuite destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du barreau du Val-d'Oise. Barreau du Val-d'Oise, l'expertise juridique à votre service.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Et voilà, la future mariée.
Elle te va à merveille, on dirait une princesse.
J'ai tout de suite pensé à vous en la voyant.
Ouais, mais ça va pas le faire. Il va pas... Non, mais c'est trop voyant.
Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la robe de tes rêves.
Les violences conjugales, ça commence quand?
Si vous pensez être victime, ne restez pas seul. Contactez le 3919.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois. sur IDFM Radio.